Bienvenue sur le podcast Challenge Yourself qui vous accompagne vers plus d'épanouissement personnel et professionnel. Je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie, entrepreneuse et auteur. Je vous retrouve chaque semaine afin de vous embarquer dans un changement de vie et de vision. Bienvenue à bord. Je suis ravie aujourd'hui partager ce moment avec Pascal Légitimus qui a accepté de répondre à quelques questions. Et puis de nous faire un retour aussi sur votre vécu, votre expérience. On va parler de plusieurs sujets. On va parler de ce qu'est un profil irrésistible, professionnellement parlant, ce qui peut justement être ajouté à la personnalité d'une personne pour être remarquable, être différent dans le bon sens du terme.
Oula.
Alors ça, c'est un vaste sujet, presque philosophique, mais avec un regard de votre côté qui m'intéresse beaucoup. Et on va parler aussi pour tous les jeunes qui sont en train de rêver, de penser et de construire leur carrière, quels conseils peuvent les aider. On pense notamment à l'école de commerce Rennes School of Business qui est très active sur cette construction unframe. Alors, on sort du cadre, on pense différemment, on agit différemment. Alors, je suis sûre que vous avez des astuces ou une philosophie à cet égard. Donc, on va aborder ces sujets-là et puis d'autres.
Ouais. Ok, on va tâcher, on va essayer, de répondre à vos questions nombreuses et variées.
Tout à fait. Alors du coup, est-ce qu'on peut revenir sur votre parcours? Parce qu'on en connaît un morceau, on a envie de...
Mais vous allez sur Wikipédia et puis vous avez très plein de choses.
De votre part, c'est-à-dire que si vous parlez de votre métier, si on vous demande quel est votre métier maintenant, qu'est-ce que vous répondez à ça?
Moi, je dis toujours que je suis un créatif. Oui. Et en fonction de ce que j'ai envie d'éditer, en fonction de ce que j'ai envie de transmettre, j'ai choisi une forme. Donc c'est soit le cinéma, soit la télévision, le théâtre, la chanson ou l'écriture, toute simple. Donc dernièrement, la chose que j'ai créée la plus récente, c'est un livre d'humour philosophique qui s'appelle L'Alphabétisier, sur lequel, avec un ami journaliste, Gilbert Join, on a édité sur 288 pages des mots qui n'existent pas mais qui veulent dire quelque chose. On est parti du principe que si on prend un mot et qu'on enlève une lettre ou qu'on rajoute une lettre, ça donne un nouveau mot, un néologisme. Je prends l'exemple du mot... dépouvante.
Oui.
Dépouvante, je rajoute un R, ça fait dépouventre. Nouvelle définition, femme porteuse. Donc, on s'était dit... On a compulsé dans un seul mot plusieurs définitions. Par exemple, si je prends le mot célibataire, un célibataire, ça peut être un pervers narcissique.
Oui.
Donc, conclusion, quand on est dans une situation et qu'on ne trouve pas le mot, qui n'existe pas, il se trouve dans mon bouquin, L'Alphabétisier. Voilà. Alors après, on a été plus loin pour terminer, on a créé d'autres rubriques parce que c'était un peu linéaire de mettre des mots comme ça en fonction de l'alphabet, on a tout compulsé. On a créé des rubriques, on a créé des fausses épitaphes de personnes encore vivantes. L'épitaphe de Macron, c'est « Et même tu descends, c'est déjà fait ». L'épitaphe de Bernard-Henri Lévy, c'est « Admirer ma pierre dombale ». L'épitaphe de Jean-Marie Le Pen, c'est « Et dire que toute ma vie, j'ai combattu les morts ». Voilà, et ainsi de suite. Après, on a créé d'autres rubriques, on a détourné des chansons. « Allô maman, bio bio, comment tu m'as fait, je suis pas bio ». Donc, ce bouquin, on ouvre n'importe quelle page, soit on sourit, soit on rit, soit on réfléchit. Donc, L'Alphabétisier de Pascal Légitimus. Voilà.
Alors là, ça répond déjà presque à la question de sortie de cadre, parce qu'on peut créer un nouveau cadre, créer de nouveaux mots, aller trouver un sens finalement qui nous vient et ça pousse la réflexion et effectivement créer, à partir du moment où on crée de manière différente, ça devient une habitude, une manière de vivre.
Oui, parce que la langue française bouge beaucoup depuis avant Jésus-Christ, avec l'invasion des Visigoths, des Goths, des Arabes, des Ostrogoths, des Hurons, enfin bref. Donc forcément... quand on dit le mot kawa, kawa c'est un café kiff-kiff, c'est-à-dire ok, d'accord, 50-50. Donc on emprunte un peu partout, et puis ça crée une espèce de méthylpote de mots. Et puis après il y a le verlan, marum, monrup. Donc en fait, la langue française bouge. Donc à partir du moment où il y a du sens, c'est ça qui est intéressant. Il faut qu'il y ait du sens dans tout ce qu'on fait. Et l'essence c'est quoi? Le sens c'est l'essence pour avancer, comme dans une voiture.
Oui.
Faire les choses bêtement, qui n'ont pas de sens, ça ne sert à rien. Quand je dis souvent à des artistes ou même des étudiants, c'est quel est le métier que vous voulez faire? Ouais, je veux gagner de l'argent. Bah, déjà, c'est une mauvaise réponse. Ouais, je veux gagner, voilà, genre des belles voitures, alors des gonzesses, alors des beaux restaurants. En fait, ça augure d'une carence affective quelque part. Donc, souvent, les métiers où on prend quelque chose, hélas, quand j'entends le mot business, moi, dans une intitulation d'école, ça me fait un peu peur. Parce que le mot business veut dire forcément, je vais prendre quelque chose. Je ne vais pas donner quelque chose. Donc, les études, souvent, sont faites, je ne dis pas pour tout le monde, mais les études sont faites des fois pour créer des prédateurs. La banque, le commerce, donc le commerce est un échange, mais des fois l'échange c'est pour gagner plus, ou pour élargir, pour augmenter. Quand on est trader, bah, trader on spécule sur rien en fait, rien n'existe, même l'argent n'existe pas. Quand un banquier me dit, monsieur Légitimus, je vous prête 100 000 euros pour votre maison, l'argent n'existe pas, ce n'est qu'une écriture d'un transfert sur une autre écriture. Rien n'existe. Donc du coup, on se dit, pourquoi je travaille? Est-ce que je travaille pour être heureux, ou je travaille pour mieux vivre, ou je travaille parce que je veux niquer mon voisin, je veux lui montrer que je suis plus fort. Donc il faut, parce que je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est avoir du sens. Et quand on fait des études, on est un peu jeune pour se dire, je fais des études parce que voilà, je suis bon en telle matière, mais je vais m'enrichir l'esprit. Non, c'est toujours pour gagner de l'argent. Parce qu'on est formaté dans la société pour ça.
Effectivement, beaucoup de jeunes ont cette réponse, c'est-à-dire qu'ils vont viser certaines études en espérant gagner telle somme d'argent.
Et ouais, alors que,
l'argent est un moyen de faire plein de choses merveilleuses.
Bien sûr.
Mais on peut en faire en gagnant peu, on peut en faire en gagnant beaucoup. Ce qui compte, c'est d'avoir cette vision-là.
Oui, mais alors, gagner beaucoup d'argent et ne pas être heureux, je ne vois pas l'intérêt.
Exactement.
Je préfère être pauvre et être heureux. Ou alors d'avoir un peu d'argent et être un peu heureux, c'est de trouver l'équilibre. Et c'est Sarkozy qui disait dans une interview il n'y a pas très longtemps, enfin il l'a dit il y a longtemps, mais je l'ai vu sur internet il n'y a pas très longtemps, il disait, c'est pas l'argent qui fait le projet, c'est le projet qui fait l'argent.
Oui.
C'est assez juste. Donc pour certains métiers, par exemple fabriquer un meuble, c'est de l'artisanat, on fabrique un meuble, et parce que le meuble est beau, il vaut quelque chose.
Oui.
Mais après, se dire, je vais gagner de l'argent, donc trouver le moyen pour gagner de l'argent, déjà, on met le cursus à l'envers, donc l'énergie, elle n'est pas au bon endroit. C'est comme si je disais à quelqu'un, mon chéri, on va faire des enfants, mais vas-y, allez, on fait des enfants, mais il faut que l'enfant soit déjà beau, il faut qu'il soit déjà intelligent, Non, faisons l'enfant, on va voir ce qu'il va devenir, on va l'élever, voilà. On va faire en sorte qu'il soit équilibré, qu'il ait de l'affection, qu'il ait les outils pour vivre plus tard, à bon escient. Donc voilà, c'est tout. C'est pour ça que quand je rencontre des étudiants, j'ai fait pas mal de masterclass dans des écoles de cinéma, entre autres, même des écoles estudiantines. J'essaye de transmettre d'abord l'humanité. Donc ça revient à la première question.
Exactement.
C'est quoi le profil
Le profil irrésistible.
Irrésistible. Irrésistible, c'est déjà d'être un être humain. Mmh. Et un être humain, c'est le métier le plus complexe et le plus difficile à obtenir. Hitler, il ne l'a pas obtenu. Napoléon ne l'a pas obtenu, même si Napoléon a fait beaucoup de choses. Mais quand même, Napoléon était un envahisseur. Oui. Donc, il a obtenu ce qu'il a voulu au détriment d'eux. Et c'est vrai que de prendre la vie de quelqu'un, c'est un des plus grands péchés, parce que ne peut prendre la vie de quelqu'un que celui qui peut la redonner.
Oui.
Donc, il n'y a que ce qu'on appelle, on va dire, l'effigie de Dieu. Donc, Dieu, c'est une hypothèse, hein, mais oui. Cette force invisible qu'on appelle l'harmonie, il y a qu'elle qui est reine dans l'univers, parce que l'harmonie, c'est quoi? C'est le nombre d'or. Donc, quand je reviens au nombre d'or, c'est-à-dire d'être centré. Donc, quand on est un être humain qui est centré, c'est-à-dire bien dans sa peau, comprendre ce qui se passe autour, respect des hommes et de la nature, déjà, on a un profil qui est cadré pour ne pas avoir de soucis. Après, on pense à l'hérédité, la réincarnation. C'est-à-dire que si on récupère des choses de nos parents qui ne nous appartiennent pas, si on croit à la réincarnation et qu'on récupère un méfait qu'on a fait au XIIe siècle et puis que ça se répercute, qu'on ne l'a pas guéri, si on y croit bien sûr, ce ne sont que des hypothèses, mais c'est intéressant. Donc le profil irrésistible, donc irrésistible, ça veut dire qu'il y a une attirance. Les gens sont aimantés.
C'est ça.
Donc aimanté, je pense qu'il faut être aimant dans les deux sens du terme.
Exactement, il faut s'attirer mutuellement, c'est-à-dire qu'un profil n'est irrésistible que pour une personne et laissera peut-être indifférent un autre individu qui ne sentira pas d'attraction.
Mais il y a des gens qui sont malins, qui vont créer un faux profil irrésistible,
oui.
qui connaissent tous les atouts, on va dire toutes les recettes pour attirer, pour prendre, pour aimanter leur proie ou ce qu'ils veulent obtenir. Donc ce qu'il faudrait, c'est apprendre à détecter pour ne pas être victime de ça.
Exactement, parce qu'effectivement, il y a des profils caméléons, manipulateurs.
Oui.
Si on se tourne vers le positif, il y a aussi des personnes qui, très humainement, très naturellement, vont chercher à être authentiques. Ils plairont à certains,
bien
fortement.
Sûr.
Ils accepteront aussi de ne pas plaire, mais ça ne les sortira pas de leur chemin, de leur route, de ce qu'ils ont envie de donner. Moi, je crois beaucoup au fait de... j'entends cette connotation sur le business qui peut heurter.
Bien sûr, mais
moi, je crois qu'on peut créer, de toute façon, business et affaires. On peut créer des affaires qui fonctionnent et qui offrent, qui donnent. C'est-à-dire que gagner de l'argent peut ne pas se faire à la défaveur d'eux. L'exemple tout à l'heure d'une belle table construite,
bien sûr.
Un travail passé, un matériau bien choisi, et la relation, la vente, la pose peut se faire dans le plus grand respect et la justesse de ce qui est proposé.
Alors, pour résumer tout ce que vous voulez dire, s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas d'amour dans la démarche, qu'on soit irrésistible, pour être irrésistible, ça foire. C'est-à-dire que un trader qui met de l'amour dans ce qu'il fait, c'est incompatible. Hein. Un chirurgien qui met de l'amour dans une opération, un cuisinier, un chef étoilé ou un cuisinier qui met de l'amour dans son plat, un menuisier qui va fabriquer une table avec amour, l'énergie de l'amour, forcément, irradie enlève cette notion défavorisante qui est que on n'est pas à l'aise, on se sent trahi, la chose elle est à peu près faite, on n'aboutit pas à ce qu'on veut, l'aspect prédateur s'en va, même dans une relation amoureuse.
Oui.
Il y a des gens qui... Moi, j'ai connu un copain qui est allé avec une fille pour la capacité qu'il avait à la dominer. C'est-à-dire qu'il dit, tiens, je vais prendre cette nana-là parce que je peux la dominer. Donc, il n'y avait pas d'amour là-dedans. Il y a des fois des femmes aussi à l'inverse qui sont avec un homme parce qu'elle veut être protégée ou parce qu'elle, tout simplement, elle ne veut pas être seule.
Oui.
Mais il n'y a pas d'amour là-dedans. Le principe de mythique, c'est de dire, je vais choisir un homme comme ça, comme dans un supermarché. Alors, je prends des petits pois un peu ronds, un peu verts, telle taille. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Ne serait-ce que naturellement, déjà, ce qu'on appelle les phéromones, l'attirance avec quelqu'un, ces petites effluves invisibles qui sont là, ne durent que 3 ans. Donc, le phénomène humain entre deux êtres, un homme et une femme, pour l'attirance, pour la reproduction, ne dure que 3 ans. L'amour vient après. Et les gens se leurrent souvent, parce qu'ils disent « Ah oui, je suis amoureuse. » Mais non, tu étais attiré.
Oui.
Et pour terminer, il y a une expérience qui a été faite où on montrait des photos d'hommes à une femme avant les règles. Elle choisissait toujours des hommes sur les photos, fort, barbu, costaud, musclé, rassurant, voilà. Et après les règles, que des hommes doux, un peu efféminés, tendres. Donc déjà, on dépend d'un système animal qui est déjà inscrit en nous, dans les gènes. Donc, alors, dans le travail, forcément, ça joue. C'est-à-dire que les relations interprofessionnelles jouent. Pourquoi tous les hommes mettent des cravates et des costumes? En fait, c'est une posture, c'est un costume. Ils ont besoin de ça pour vendre quelque chose. Donc, c'est dans le profil irrésistible, ça ne marche pas. Je sais qu'à la banque Rothschild, on peut être major de polytechnique, on ne sera jamais engagé si on ne porte pas de cravate. C'est n'importe quoi, je veux dire. Donc, on privilégie l'apparence.
Des codes.
Et non pas le... Donc, pour être irrésistible, il faut être sincère.
Exactement. Authentique.
Mettre de l'amour, être sincère, authentique. Et surtout, aimer ce qu'on fait. Parce que des fois, on fait un boulot qu'on n'aime pas et on y va quand même et on le fait à bon escient. À mauvais escient, pardon.
C'est ça, on est encore dans cette notion d'amour. Finalement.
Donc, on est d'accord.
Nous sommes totalement d'accord.
Très bien.
Mettons de l'amour dans tout ce qui est travail.
Dans ce chocolat chaud, il y a de l'amour, donc je le bois.
Ça a été fait avec amour dans une tasse qui vous a été dédiée.
Tout à fait,
amour,
c'est gentil.
Ça a été apporté. Je pense que c'est important et c'est peu évoqué. Parce que si on parle en management ou un dirigeant d'entreprise de ramener de l'amour dans son entreprise, moi qui suis coach, si j'amène ce discours, on va se dire, oulala, elle est un peu...
Mais
pourtant, c'est ça. C'est que si on n'aime pas ses équipes, si on n'aime pas son client, on ne peut pas donner le meilleur de soi-même, on ne peut pas avoir envie de se lever le matin, on ne peut pas être fier de ce qu'on a accompli tout au long de notre vie. Donc je crois beaucoup à cet amour, même si ça peut sembler très curieux.
Mais
ceux
c'est
qui aiment leur métier savent de quoi on parle. Et je pense qu'un étudiant, c'est important qu'il le sache parce que on ne choisit pas, comme on ne vise pas l'argent comme une fin en soi, on ne choisit pas de faire des études simplement parce que c'est la porte d'entrée unique.
C'est réducteur.
C'est réducteur. C'est réducteur. Ouais. Voilà.
C'est réducteur de se dire, alors je vais faire radiologue parce que radiologue, ça gagne bien. Voilà, on fait des. Voilà, pof, pof, les gens ils défient les uns les autres, hop, on prend des radios, j'encaisse, je vais faire chirurgien ou même dentiste. Je vais faire dentiste parce que dentiste c'est bien.
Vétérinaire c'est pas mal.
Vétérinaire aussi, mais en même temps, vétérinaire c'est quand même entre 7 et 10 ans d'études, c'est costaud. À l'arrivée, je pense qu'on aime les animaux à un moment donné, il faut quand même assumer le. Mais il y a beaucoup de. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne savent pas vraiment le métier qu'ils veulent faire parce que. Je pense que les étudiants, enfin les jeunes aujourd'hui sont conscients, parce que leurs parents ont subi ça, qu'aujourd'hui il y a la notion de bien-être qui devient plus importante.
Oui.
Parce qu'à cause et grâce à la pandémie, il y a des gens qui se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas à la bonne place et qui se sont dit, mais oui, mais alors, je quitte Paris, je vais au bord de la mer, je veux vivre, je veux respirer, je veux voir mes enfants grandir et pas sous une pression d'un patron qui va m'imposer des normes. Donc c'est, je pense que on est sur une bonne voie, mais je me suis rendu compte que par exemple l'école polytechnique, le niveau a baissé. Je me dis tiens pourquoi ? C'est la 400e meilleure école au monde, 400e place. C'est Idriss Aberkane qui disait ça. C'est un monsieur que j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un de très intelligent, mais en même temps il est cultivé. Mais enfin il est une façon d'analyser les choses qui sont tournées vers l'humain.
Ouais.
Beaucoup plus que sur le résultat. Et on se dit, ouais, alors moi je vais faire polytechnique. Ben ouais, mais il y a mieux. Vous voyez, donc, c'est quoi mieux ? Donc, et puis aussi les parents, alors attention. Dans la notion de. Il ne faut pas oublier que les parents vous poussent. Et comme on veut plaire à ses parents, parce que c'est eux qui payent des études souvent, des fois on va dans une direction qui ne nous plaît pas. Donc les parents ont aussi une importance capitale dans le bonheur de la suite. Parce que des fois. Quelqu'un qui... Souvent, les parents se projettent dans leurs enfants. Donc, ce n'est pas de l'amour, ça, pour moi. De dire, oui, tu vas faire ça parce que je veux que tu fasses ça. Mais même papa, je suis pas heureux. Rien à foutre. Tu laisses tomber la guitare, tu vas faire HEC. Mais oui, mais je n'ai pas envie.
Alors, c'est vrai que ce phénomène de prolongation de ce qui n'a pas été accompli par l'un des parents...
C'est difficile d'être irrésistible comme ça.
Ouais. Exactement. Ou même une tradition familiale. On connaît tous des
tu reprends l'entreprise de papa.
Des personnes qui ont été comme ça destinées à avec aucun autre choix, aucune autre option possible. Et ça crée aussi des gens très malheureux qui n'arrivent pas à manager dans l'amour puisqu'ils sont à une place qu'ils n'ont pas choisie. Et je pense que c'est important aussi de l'entendre et de se dire qu'on est responsable de la vie qui nous a été donnée, certes, mais de là à la sacrifier parce qu'elle nous a été donnée par des gens qu'on aime et c'est ce qu'on souhaite à. Non,
et surtout que les parents vont mourir à un moment donné, on va être livrés à nous-mêmes. Donc ils nous ont mis dans une case et ils ne seront plus là.
Oui.
Donc à quoi ça sert ? Non, non. Et on dit élever les enfants, c'est les élever. Donc c'est
les aider, les préparer.
Alors, l'erreur fondamentale pour moi, c'est que je crois que c'est la famille, je crois que c'est maintenant, c'est même pas moi qui le dis, c'est la famille qui crée des monstres. On ne naît pas serial killer, on ne naît pas un prédateur, on ne naît pas méchant. Je pense que. C'est le giron, c'est le foyer qui crée les déviances. C'est Cyrulnik qui le disait, hein, c'est la politique du bouchon liège. En même temps, plus on l'enfonce, plus on monte à la surface. Donc, chez certains, ça va créer des choses positives, et sur d'autres, ça va les enfermer. Donc, moi qui avais joué il y a quelques années à un profileur sur la chaîne française, sur France Télévisions, j'ai étudié donc les profils de certains prédateurs sexuels, et les trois quarts, 95% de ces gens-là qui faisaient des horreurs, ont subi, eux, dans leur enfance, des sévices. Donc, en fait, ils reproduisaient des codes. Donc, un enfant à qui le père n'a jamais dit « je t'aime », il ne saura pas l'exprimer. Donc, pour être irrésistible, il y a aussi une part d'hérédité importante. Donc, il faut aussi, pour terminer, mettre une balle dans la tête de ses parents, symboliquement, couper le cordon pour renaître.
C'est-à-dire qu'effectivement, son passé, son hérédité, Si elle ne s'est pas faite dans l'amour et avec la transmission positive qu'on peut espérer,
c'est mort.
C'est où on coupe, où on travaille, mais on ne fait pas comme si ça n'avait pas existé, parce que sinon ça construit effectivement ces profils monstrueux. Alors ça peut être excessif avec des serial killers, ça peut être aussi des managers absolument insupportables et dictatoriaux. J'ai accompagné moi en coaching un monsieur qui n'avait aucun savoir-être avec ses équipes et qui les perdait les uns après les autres. Et quand moi je l'ai eu au cabinet, c'était un monsieur adorable qui m'a expliqué la pression qu'il se mettait.
Ben c'est ça.
Et c'est pour ça qu'il n'arrivait pas à supporter ce que lui voyait comme de l'incompétence, tellement ça le menaçait dans ce qu'il essayait de construire. Et quand on arrive à comprendre, et encore une fois, à rajouter de l'amour dans toute relation professionnelle autant que possible, on n'est pas dans un monde rose, guimauve.
Bisounours.
Mais c'est important de comprendre que sans ça, on passe à côté de la compréhension d'énormément de fonctionnements de personnes et qu'on se prive aussi d'un bien-être au travail. Parce que si on ne comprend pas ce qui dysfonctionne dans une relation avec un collègue, avec un client, eh bien, on n'arrive pas à en sortir. Et on se lève le matin en disant « mince, je dois y retourner ». Et je pense que le profil irrésistible, il est aussi dans cette observation. Mm-hmm. Quel est votre regard là-dessus, justement, de l'autre? Alors, l'adaptation, pas pour manipuler, mais pour faire en sorte que ça marche. Pour aussi savoir faire ce cadeau à la personne en face, d'être des fois la main tendue, d'être des fois l'oreille attentive, ou la personne qui va un peu bousculer gentiment, mais pour encourager, pour faire donner cet élan de dépassement à la personne avec qui on travaille. Qu'en pensez-vous? Un manager irrésistible, quelles qualités il doit avoir?
Il doit surtout être dans l'empathie. Parce que c'est il manage. Manager, ça veut dire comprendre, se mettre à la place d'eux et trouver les solutions. C'est détecter les problèmes et trouver les solutions. C'est ça pour moi un manager, ce qu'on appelle un DRH, directeur des ressources humaines. Et s'il n'y a pas ces éléments-là, c'est voué à l'échec. Et je pense aussi qu'un bon manager doit faire une psychanalyse. Parce qu'il faut qu'il règle d'abord ses problèmes. S'il doit régler les problèmes des autres, il faut d'abord qu'il règle les siens. Sinon, il y a une imposture, quelque part. Donc, et il y a beaucoup de personnes qui sont à cette place-là, pas tous, mais certains, parce qu'il y a une bonne prime à prendre, il y a un bon salaire, donc ils vont se dire DRH. Moi, j'ai fait des coachings avec une quarantaine de DRH il y a 3-4 ans à Lille. Certains étaient incapables de gérer une démission ou quelqu'un qu'il fallait renvoyer, ils ne trouvaient pas les mots, mettre un peu d'humour ou mettre les formes, ou essayer de comprendre la problématique, trouver une solution. Il y a des métiers comme ça qu'on a inventés, mais...
Qui ne s'improvisent pas.
Mais ne serait-ce que parents, il n'y a pas de diplôme pour être parent. On ne nous apprend pas la sexualité, on ne nous apprend pas l'éducation parentale. La personne qui ouvre une école demain, la sexualité entre les êtres humains, déjà là, par rapport à l'adolescence et tout le reste, plus la relation de parental et du couple, mais il cartonne, mec qui cartonne. Donc,
il manque quelques blocs. Ne pas travailler la confiance en soi, ne pas travailler la sexualité. En fait, éveiller à, aider, poser des mots.
Bien sûr.
On parlait de verbaliser avec des mots qui peuvent être créés, mais c'est ça. C'est-à-dire que ne pas se déresponsabiliser de la transmission qu'il est important de faire. Parce que l'enfant, sinon, ou l'adolescent, il apprend où il peut. Et il n'y a aucun regard sur ce qu'il apprend, sur ce qu'il comprend et sur ce qu'il réalise derrière.
Moi, je dis que les métiers que vous faites, chère madame, donc coaching, donc on dit « voulez-vous coacher avec moi ce soir ?» comme dirait l'autre. Le coaching, je crois que c'est un ersatz d'un psychanalyste. C'est qu'il y a quelqu'un qui a un diplôme, qui est psychanalyste, il y a aussi des psychologues, mais le coaching consiste aussi à faire... Il n'y a pas le divan, mais c'est quasiment le même métier. C'est quand quelqu'un est en disharmonie, c'est de réharmoniser, donc c'est de rééquilibrer... une personne qui a une carence affective, qui n'est pas bien dans sa peau, qui ne s'aime pas, qui ne sait pas s'habiller, qui met le mauvais parfum, qui ne sait pas parler, qui est autiste. Enfin, donc il y a du boulot. Et on se rend compte que les gens commencent à s'avouer, à s'autoriser, à se dire effectivement, pour m'améliorer, je vais prendre quelqu'un qui va m'aider, sinon...
Et c'est ça qui est intéressant, je pense que c'est assez nouveau. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, en tout cas en France, on ne voyait pas ce phénomène-là.
Non.
Et maintenant, c'est très courant. C'est-à-dire qu'un dirigeant a souvent un coach, les équipes, quel que soit le niveau, c'est-à-dire que les managers, mais aussi les nouveaux recrutés, même pour des personnes, des fois, qui ne sont pas annoncés comme restant de manière très durable dans l'entreprise.
Ouais.
Et il y a quand même un nouvel élan. Alors, vous en parliez, donc vous intervenez en entreprise.
Oui, je vais coacher trois PDG en one-to-one, comme ils disent, pour... Parce qu'il y en a qui n'a pas d'humour, l'autre il est mal dans sa peau, et l'autre qui est trop prétentieux, trop d'ego, trop de trop, brillant, mais et du coup il déborde, et du coup il gêne, du coup il... Voilà, donc on m'a contacté pour... Parce qu'en fait, j'ai une qualité par rapport à ce que je fais, c'est que je vois clair tout de suite. Alors c'est presque médiuminique, je sens les choses, mais j'ai des solutions. Et comme ça marche bien, du coup les gens surfilent mon numéro, et donc en dehors de mon métier... qui est quasiment le même pour moi, parce que quand je mets en scène quelqu'un, c'est aussi une manière de... Moi, je fais un métier qui a trait à l'humain, parce que j'écris des histoires, j'invente des histoires, je dirige des gens, par exemple. Pour faire très court, j'ai mis en scène dans une pub Zidane, il y a quelques années, pour Canal+. Il m'a dit, Pascal, putain, moi, je ne suis pas acteur. Hein. Je dis, bah, il n'y a pas de problème, tu as quatre phrases à dire, on va... C'était une des premières pubs où il parlait, hein. Normalement, c'était des voix-off. Et je lui dis, t'as déjà dit je t'aime à ta femme? Il me dit, ouais, bien sûr, j'ai dit, ouais, je t'aime. Ouais. Et tu peux dire, tu sais que tu peux dire je t'aime, t'en as rien à foutre. Mais comment ça? Donc je lui fais un je t'aime, genre, ouais, je t'aime. Genre, j'en ai rien à foutre. Puis, alors, c'est un je t'aime hypocrite. Il me dit, comment ça? Donc je lui fais, puis tu sais, un je t'aime avec emphase. Donc j'ai fait 15 je t'aime différents. Je lui dis, au final, tu as remarqué, le je t'aime, c'est le même. Mais la pensée n'est pas la même. Donc ce qui est important dans le texte, c'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu penses. C'est le non-dit qui est plus important. Que le mot. Parce que des fois, on dit des choses et on pense autre chose. Donc, la forme verbale, elle est connue, mais il y a un inconnu qui va se faire connaître de la part du public ou de la personne qui va l'écouter, qui va se dire « Ah, d'accord. » Donc, ok, donc le tueur, c'est lui, mais on ne sait pas, mais il a donné un indice. Donc, l'auteur a voulu qu'on comprenne que c'est lui parce qu'il a fait ça, mais c'est pas dit. Quelqu'un qui est très gentil, par exemple, un prédateur... Un mec qui veut choper une petite fille pour parler de choses sordides, il va être gentil, il va dire, tu veux un bonbon? Il va dire, viens petite, viens, je vais te violer. Je vais... Non, il va dire, tu veux un petit bonbon? Donc, le bonbon, sachant que derrière, c'est une parole gentille, mais derrière, il y a un monstre. Donc, et du coup, la pub, il l'a faite comme ça. C'était assez rapide. Et voilà, c'est pour ça que j'interviens avec plein de gens, parce que j'ai la capacité d'eux. Mais pour moi, c'est le même métier.
Mais de toute façon, il y a une créativité, moi, que je sens dans ce que vous expliquez. Vous l'avez dit tout à l'heure, dans une manière de créer différemment, dans un moule différent.
Tout à fait.
Mais là, c'est de la création aussi. Vous avez quelqu'un face à vous. Vous partez d'une personne qui est d'accord pour avancer, pour travailler, pour changer.
Ouais, ouais.
Et vous allez créer, pas quelque chose que vous amenez, mais quelque chose que vous révélez, qui est déjà là.
C'est ça.
Mais vous l'aidez à créer ça. C'est encore une autre forme.
Oui, c'est
de
vrai.
Création.
C'est vrai, on peut dire ça. Là, je bossais avec un autre type qui était, pareil, brillant et tout. C'est un champion de kung-fu, champion de ceci, champion. Puis là, il a un business et tout. Et beau gosse, 40 ans, bref. Mais dès qu'il est dans une conversation, il prend la parole. Avec sa femme, il fait hop, hop, il fait ce geste-là donc, pour parler. Il prend de la place, il ne s'en rend pas compte.
Oui.
Maintenant, il s'en rend compte maintenant, mais il ne sait pas comment faire pour... Parce qu'il a toujours envie de... En fait, il a envie qu'on l'aime. C'est tout bête, hein. Je dis, mais ça va, on t'aime. Ouais, mais bon, mais non, mais on t'aime. Pourquoi tu veux le... tu es là. Pourquoi tu veux qu'on te remarque? T'as une femme, t'as des enfants, ça va, t'as de l'amour chez toi. Ouais, mais j'ai l'impression... Alors, t'as tout ce qu'il faut, t'as de l'argent, t'as une maison, t'as une femme, t'as des enfants, mais tu veux quoi de plus? Il ne sait pas. C'est un réflexe.
Oui.
Donc j'essaye d'enlever ce réflexe chez lui, de faire comprendre que ça ne sert à rien, ça le dessert.
Oui.
Donc du coup, j'ai appuyé là où ça fait mal, je dis, tu vois, tu veux qu'on t'aime, mais en fait, on t'aime moins. C'est comme quelqu'un qui met beaucoup de parfum pour eux, parce que voilà, elle veut sentir bon. Donc, au contraire, il y a tellement trop de parfum que ça crée l'inverse. Ça pue et après, avec le pH de la peau, ça vire au vinaigre, il y a de l'acidité, donc c'est trop. Donc quelqu'un qui est dans un train ou dans un... souvent des femmes un peu fortes, qui mettent beaucoup de parfum parce qu'elles transpirent, elles en mettent trop. Mais non, il faut doser, au contraire, trouver le parfum qu'il faut, donc elles ne savent pas. Non, mais j'aime bien ce parfum. Oui, mais il ne vous va pas, madame. Il est trop acide, trop violet, trop de rose. Oui, mais je l'aime bien. Oui, mais ce n'est pas ça qu'il faut. Vous voulez qu'on vous aime, vous créez l'inverse.
Alors, ça rajoute des indices aussi pour créer ce profil irrésistible. C'est essayer aussi de comprendre l'attente de l'autre et puis accepter la remarque, quitte à se remettre en question, même si on aimait quelque chose.
Faut être courageux. Faut être courageux pour accepter d'être critiqué et d'être remis en question. Faut être courageux. C'est comme quelqu'un qui va dire, chérie, c'est parce que je t'aime que je m'en vais. Quoi ? Oui, c'est parce que je t'aime que je m'en vais. Ben oui, mais reste. Non. On veut plaire, donc on rajoute des choses pour plaire, et finalement ça crée l'inverse.
Oui.
Notamment, comme je l'ai dit, le parfum, on se rajoute du parfum pour sentir bon. Le fait de rajouter du parfum, du coup on pue. Parce que donc c'est toujours la disharmonie, c'est-à-dire que l'équilibre en tout, mais qu'est-ce que l'équilibre ? Donc pour connaître l'équilibre en tout, ben faut aussi tester. Pour être irrésistible, il faut prendre des risques, se planter. L'échec est un diplôme.
Tout à fait. Mais vous savez ce qu'il y a derrière cette peur de l'échec ?
Dites-moi, chère madame. Il y a l'échec et l'échec. Il y a l'échec et l'échec.
C'est là, je pense qu'il gêne peu de monde, hein, l'échec.
Alors dites-moi, vous vouliez dire quoi, chère madame ?
Mais en fait, l'échec, il y a souvent, et ça revient à ce qu'on a dit, souvent cette peur de ne pas être aimé, la peur d'être critiqué.
C'est le mal du siècle.
Exactement. Alors, est-ce que vous pourriez donner, parce que tous les jeunes qui vont s'essayer peuvent avoir peur de ça, les moins jeunes aussi, toute nouvelle tentative, dès qu'on sort de notre quotidien, de ce qu'on maîtrise, de ce qu'on sait faire, certains diront de leur zone de confort, on est sur une prise de risque forcément beaucoup plus élevée. Mais quand il y a une déception, quand c'est pas apprécié, quand on avoue même nous-mêmes ne pas avoir réussi, comment on gère, il y a peut-être dans vos expériences des choses qui ont été
je pense qu'il faut
dures à entendre, à supporter. Comment vous avez géré ça ?
Il faut accepter de ne pas être parfait.
Oui.
Déjà, il faut accepter ça. Et après, être courageux pour se remettre en question et repartir à zéro pour être mieux. Moi, j'en voudrais beaucoup plus à quelqu'un qui va rager parce qu'il n'a pas réussi que quelqu'un qui va dire, effectivement, je me suis trompé, excusez-moi, je vais reprendre, reprendre à zéro, je vais repartir à zéro. Mais quelqu'un qui est en colère parce que, ouais, putain, merde, fais chier, ouais, parce que, ouais, putain, j'ai loupé le truc. Ou quelqu'un qui va se mentir à lui-même, non, mais excusez-moi, non, mais c'est bon, ça... C'est de la faute de l'autre, là. Mais non, c'est ta faute. Mais non, mais... Parce que... Ouais, c'est... On ne vous aimera pas moins. Je pense qu'on aimera beaucoup plus quelqu'un qui est entier et naturel que quelqu'un qui va être dans la fourberie et qui va biaiser. Parce que si quelqu'un biaise et fourbe ou ment, il ne faut pas que ça se voit. Pour être un bon menteur, il faut avoir une bonne mémoire. Tu m'avais pas dit ça la semaine dernière ? Si, mais chérie, t'étais où hier soir ? Non, mais j'étais avec des amis boire un verre. Non, mais tu m'avais dit que t'étais... Ah, ouais. Si on rentre dans le domaine de l'infidélité, le mensonge est utile pour ne pas faire de mal.
Ouais.
C'est le meilleur moyen. On ment pour ne pas faire de mal. Mais des fois, il y a des gens qui mentent pour se protéger. Parce qu'ils ont peur. Mais alors, déjà, quand on fait une action dont on sait qu'elle ne va pas être positive, on rentre déjà dans un système, il faut l'assumer, quoi. Il faut assumer de dire, bah oui, j'ai fait ça, ok, je me suis trompé. Ou quelqu'un qui ne va pas apprendre son texte et puis qui va avoir peur le jour de la première d'une pièce de théâtre et qui n'a pas bien bossé. Je pense que pour être un bon profil irrésistible, il faut aussi travailler. Travailler.
Oui.
Et plus que les autres. Moi, j'ai travaillé, pour répondre à votre question, j'ai travaillé plus que les autres pour être au niveau où je suis. Enfin, c'est pas question de niveau, mais... Surtout que moi, j'avais un désavantage. J'avais ce qu'on appelle... J'ai une couleur de peau à forte pigmentation. Donc, j'ai la couleur entre deux chaises. Moi, on me prenait pour un arabe, un indien, un brésilien. On me prenait jamais pour ce que j'étais. Donc, un métis.
Oui.
C'est-à-dire antillais et arménien. Original. Donc, dans les années 70, c'était peu courant. Donc, je prenais des scuds... de gens qui n'étaient pas cultivés, qui n'avaient pas à me scanner. Donc j'ai dû, pour être accepté de mon environnement affectif, redoubler, on va dire, d'astuces. Donc j'ai fait le rigolo. J'ai dit, tiens, l'humour, ça, les gens, s'aimante bien avec moi par rapport à l'humour. Donc j'ai dit ok, donc j'ai fait rire mes camarades pour être aimé. Après, à l'école, il y avait des copains qui jouaient de la guitare, donc les filles venaient, mais qui avaient une belle moto, donc les filles venaient. Moi, je faisais rire mes camarades. Ensuite, je me suis rendu compte que je pouvais en faire un métier. Et en même temps, je dis, mais oui, ce métier, il va me servir à quoi? À transmettre des bonnes valeurs.
Oui.
Je n'ai pas fait ce métier-là pour faire de l'argent. Je dis, tiens, grâce à mon métier, je peux diffuser parce que les gens m'observent, les gens m'écoutent. Et maintenant, les gens m'aiment pour ce que je suis. À tel point qu'on ne voit plus ma couleur de peau. On dit, tiens, c'est Pascal. Avant, c'était les Jiminus. Comment ils s'appellent les Jiminus? Avant, c'était le black, là, le métis, là, l'antillais. Là. Et au fil du temps, c'est Pascal.
Oui.
Maintenant, je peux jouer n'importe quel rôle. On ne va pas dire, Omar Sy, c'est Omar Sy. Bon, il est plus foncé que moi. Mais il y a encore des rôles où on le cantonne dans ce qu'il est. Mais le jour où il joue un rôle lambda, et on ne verra plus sa couleur de peau, et ça ne sera pas utile pour l'employé. Parce que les gens voient faire, on va prendre un black, on va prendre un marcy, Donc moi je ne suis plus une couleur, je suis un acteur. Avant j'étais une couleur, maintenant je suis un acteur. Donc pour être irrésistible, ce qu'il faut c'est que les gens vous aiment pour ce que vous êtes.
Oui.
Et pour être, il y a un chemin qui est très très long, parce qu'on ne sait pas qui on est en fait. On démarre dans la vie, une fille peut aussi imiter ses parents, au niveau des fringues, au niveau de la coiffure, parce qu'on a des modèles, ce sont les parents. Un gamin va imiter son père, une fille va se marier avec un homme parce que c'est l'image du père qui se profile, donc c'est le complexe de Bit. Vous voyez, je fais des jeux de mots qui se met en place. C'est compliqué. En fait, on apprend à compter, à lire, mais on ne nous apprend pas à comprendre qui nous sommes. Et je pense qu'il faudrait à l'école une matière qui serait... mais très importante, mais la plus importante, c'est d'apprendre comment l'être humain fonctionne.
C'est ça.
Voilà.
Ce qui peut être étudié maintenant, on entend beaucoup parler des neurosciences, qui parlent du fonctionnement.
Mais bien sûr.
C'est pas quelque chose comme
non.
ça, ni une paillette, ni quelque chose hors norme. Ça devrait faire partie, peut-être pas aussi poussé pour tout le monde, mais que chacun ait accès à ce qui peut lui plaire, ce qui peut l'aider.
Ouais, parce que moi, à une époque, j'avais un copain qui disait, moi j'ai des potes qui ont fait des grandes écoles, alors il y a eu Polytechnique, HEC, et puis l'ENA, enfin des... et certains se suicidaient. Et je me disais, mais pourquoi? Les mecs ont fait... Mais non, en fait, ce sont des cerveaux, ils peuvent construire des ponts, en balancer des fusées dans l'espace, mais ils sont incapables de faire marcher ça. Ce qui fait que leur vie quotidienne, leur vie de couple, était complètement émiettée et non assumée. Ils n'étaient pas heureux, parce qu'on ne leur a pas appris. L'essentiel, c'est le cœur d'abord.
C'est ça, s'écouter, s'aimer, et faire ce qui est aligné.
On le voit bien dans les hommes politiques, ils sont tous formatés. Écoutez, cher ami, écoutez, laissez-moi parler. Non, écoutez, alors le PIB, écoutez, la France, c'est les mêmes intonations, c'est les mêmes gestes. Mmh. Mais où est la sincérité là-dedans? C'est pour ça qu'on a un problème en ce moment avec pour élire un président, c'est qu'on sent que ce sont plus des êtres humains qu'on va élire qu'un parti ou une tendance, parce qu'on sait très bien que c'est tous les mêmes. Gauche, droite, milieu, centre, c'est les mêmes. Je dirais même à M. Macron ou à quelqu'un d'autre, ou à Zemmour, pourquoi vous voulez être président de la République? Dites-moi pourquoi. C'est quoi la raison? C'est pour la France. Non, 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 attendez, vous n'allez pas me dire que vous allez vous faire chier pendant 5 ans avec tout ce que ça comporte de cheveux blancs, des responsabilités. Pour la France, non, non, c'est quoi que vous voulez... Ouais, comme Sarkozy, je vais être président. Mais pourquoi? Moi, j'ai pas envie d'être président, c'est un métier horrible. Vous avez beaucoup d'argent, vous avez le pouvoir. Ah, le pouvoir. Ah. Donc, il y a un problème, forcément. Il y a un problème psychanalytique pour être un patron, pour être le meilleur du monde, monsieur LVMH, monsieur. Dans quel monde vit-on? Vous voyez, Chanel, Vinci. Bill Gates, l'Amazon, mais c'est quoi le but? Je claque des doigts, monsieur Amazon, il éternue, il gagne, je sais pas, 100 000 euros. C'est quoi le but? Je comprends pas. Donc,
au fait de devoir ramener du sens, parce que de l'extérieur, on ne sent pas le sens, mais parce qu'ils ne savent pas non plus nous montrer.
Ce sont ces gens-là qui nous donnent des ordres et qui nous dirigent et qui nous imposent des choses. C'est ça le problème, c'est qu'on va dans une mauvaise direction. Excuse-moi, je vous ai coupé.
Ah, mais non, c'était...
Mais on est d'accord.
C'est effectivement quelque chose qu'on retrouve dans différents domaines. Et pour revenir sur ce côté irrésistible, j'avais pas pensé à cette question avant, mais qu'est-ce qui vous a rendu les uns les autres irrésistibles pour vous rassembler tous les trois? Qu'est-ce qui vous a séduit les uns chez les autres? Et puis ça a duré, donc.
Bah oui, on est encore amis. En fait, avec les inconnus, il y a aussi le hasard. Quoiqu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Je pense que ce sont des choses qui ne se voient pas. C'est de l'ordre de l'invisible. On est attiré parce qu'il y a la même sensibilité, le même point de vue, une éducation aussi, qui est quasiment semblable, respect des hommes et de la nature. Tous les trois, je pense qu'on est des êtres humains, on a des défauts forcément, mais ce n'est pas des défauts qui font chier, je le dis carrément, les autres. C'est plus des défauts qui nous incombent, qui pourraient nous destituer, nous décaler. Mais tous les trois, c'est le hasard de la vie qui nous a mis ensemble, mais en même temps, on est assez d'accord. Et puis on a aussi la même formation théâtrale. Et puis tous les trois, on est complémentaires. Alors qui est con, qui est plémentaire, bon, je sais pas qui, mais on est complémentaires. Donc ça, c'est important. C'est qu'à trois, il y a un truc qui marche. Ouais. C'est la trilogie. Tu vois, à quatre, c'est compliqué.
Vous avez essayé ?
On était quatre au début, puis il y en a un qui est parti parce que c'était compliqué. Il avait une vie privée et puis il était en désaccord avec notre producteur à l'époque. Donc voilà, maintenant il est bioénergéticien, donc c'est un mec formidable qui travaille bien. Seymour Bruxelles, de son nom, pour le citer. Mais j'avoue que non, c'est. À un moment donné, quand on. C'est un peu comme les Beatles, à un moment donné, il y a un truc qui se fait qui est naturel. Voilà, on dit tiens, bah, ça match. En fait, c'est comme dans un couple, hein. À un moment donné, on dit c'est la personne. Voilà, après ça dure ce que ça dure. Mais pendant un certain temps, on va être accompagné de cette personne. Moi, je dis à tout le monde, même par rapport au couple, moi qui suis marié depuis 10 ans, je suis avec la même personne depuis 18 ans, c'est de se dire, tu fais ce que tu veux. Tu es libre. Tu n'es pas avec moi parce que pour que je te... Par contre, si tu aimes quelqu'un d'autre, là, on discute. Je peux pas dire à ma femme si elle veut à un moment donné, je sais pas, partir un mois ou aller au cinéma toute seule. Je vais dire, tu vas où? C'est qui? Pourquoi? J'ai pas le droit. C'est pas possible ça. À un moment donné, elle a besoin de se nourrir. Moi, j'ai besoin de me nourrir pour mieux apporter au sein de la famille des choses positives. Et puis ça va aussi même dans l'affection. Alors je dis pas qu'il faut être infidèle, mais je vais pas jusque là. Mais à un moment donné, faut pas si parce que c'est l'Église qui a inventé la notion de couple. C'est pour ça qu'on est toujours un peu en difficulté quand au bout d'un certain nombre d'années. On se dit, ouais, c'est compliqué. Moi, la fille avec qui j'étais avant, parce que ça rejoint un peu tout ce qu'on dit, elle m'a dit, au bout de 8 ans, je t'aime toujours, mais j'ai plus de désir. Alors, on fait quoi, là? Donc, dans le boulot, c'est pareil. S'il n'y a pas du désir, c'est compliqué, parce que l'amour et le désir, c'est quoi, là?
Ça se tiole dans le travail aussi.
Parce qu'il y a l'amour et le désir. Désir, il y a une notion de sexualité. L'amour, c'est un truc qui est intemporel, qui sera toujours là. Je t'aime toujours, mais j'ai plus de désir. Et pour terminer cette conversation, je dirais à toutes ces personnes, pour moi, dans n'importe quel domaine, alors dans le domaine humain, il y a trois choses importantes. Il y a ça, il y a ça et ça. Il y a l'intellect, le cœur et la sexualité. S'il y a les trois, la personne, on l'épouse. Si on a deux, c'est une belle histoire. Si on a qu'un, c'est une aventure.
C'est vrai.
Et dans le boulot, c'est pareil. Voilà.
Et puis, c'est une magnifique fin.
Ben voilà.
Voilà, on va dire au revoir.
À bientôt.